Alors, ce PowerPoint va simplement me servir à reproduire quelques textes bibliques pour vous aider à suivre l'exposé que je vais faire. Et ça n'est pas un PowerPoint qui va présenter le plan de l'exposé ou amener des schémas. C'est simplement pour avoir les textes eux-mêmes au moment de l'exposé. Je dois commencer par m'excuser auprès de vous. Je ne vais pas traiter exactement le sujet qui est annoncé. L'explication est la suivante. Pour me préparer à faire cet exposé, je me suis lancé dans une étude sur le débat contemporain depuis les années 90 sur la violence monothéiste. Et j'ai préparé un article sur ce sujet. La rédaction est achevée et il devrait paraître. Et donc j'ai pensé faire encore autre chose. Ce sera une approche un peu différente que celle de la violence religieuse. La question que je voudrais évoquer avec vous est la suivante. C'est celle qui est reproduite ici. La Bible est-elle une réponse, apporte-t-elle une réponse à la violence ? Pour qui interroge la Bible au sujet de la violence, je crois qu'il se trouve devant un contraste qui est saisissant et qui est assez déconcertant. Le Nouveau Testament nous présente des gens qui subissent la violence, essentiellement pour des raisons religieuses, et ces gens qui subissent la violence sont exhortés à la subir sans y répondre, sinon par l'amour. Et les auteurs du Nouveau Testament font de cette violence subie injustement un honneur, une spécificité du chrétien, même un critère d'identité. Souffrir comme chrétien, c'est un honneur, dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 16. C'est une grâce, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 29. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Jésus-Christ, mais de souffrir pour lui. C'est un bonheur, proclame Jésus dans les béatitudes du sermon sur la montagne. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, quand vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de calomnies. C'est une preuve de piété. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, écrit Paul à Timothée, deuxième lettre, chapitre 3, verset 12. Et par-dessus tout, souffrir injustement, c'est suivre les traces du Christ, 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et à toutes ces exhortations, le Nouveau Testament joint aussi des exemples de martyrs, Étienne, Jacques, et puis toutes les tribulations qu'a subies l'apôtre Paul, et par-dessus tout, bien sûr, l'exemple du Christ. Donc le Nouveau Testament apparaît essentiellement comme le livre de la violence subie. Et quand on se tourne vers l'Ancien Testament, on a l'impression inverse et on se trouve en face du problème d'une violence infligée. Alors, ça n'est pas pour... Il ne faudrait pas en conclure de ce que je dis, que la violence subie soit absente dans l'Ancien Testament. Elle est très, très présente. Il y a la souffrance des Israélites esclaves en Égypte, il y a la souffrance de la chute de Jérusalem et de l'exil, la souffrance des prophètes persécutés, en particulier de Jérémie. Il y a le serviteur souffrant annoncé par Ésaïe. Il y a les souffrances des psalmistes qui exposent à Dieu leur désarroi, leur détresse face aux méchants, face à des ennemis. Il y a l'exemple de Job. Donc la violence subie occupe une très grande place dans l'Ancien Testament. Et je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'elle occupe plus de place que la violence infligée. Mais ce qui frappe le plus le lecteur, surtout lorsqu'il compare les deux testaments, c'est la violence infligée, une violence souvent même ordonnée par Dieu lui-même, quelques exemples particulièrement frappants. L'extermination des Cananéens. Je cite ici un texte du Deutéronome qui dit qu'il ne faut, faut pas avoir un regard de pitié pour eux. L'épuration ordonnée par Moïse après le veau d'or, lorsqu'il appelle les Israélites qui sont pour lui à se présenter, il leur donne cet ordre au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée au côté, passer et repasser d'une porte à l'autre et tuer chacun son frère, son ami, son parent. Et un autre texte particulièrement vigoureux, un texte du chapitre 13 du Deutéronome, à l'égard de ceux qui inciteraient des membres de leur famille ou leurs voisins à se tourner vers d'autres dieux, la répression qui est recommandée, qui est ordonnée, est d'une grande sévérité, avec une forte insistance, pas de pitié, pas de pitié. Et les verbes s'accumulent, hein. Ne pas l'épargner, ne pas le couvrir, le tuer, tu lèveras le premier la main sur lui pour le mettre à mort, tout le peuple ensuite, tu le lapideras, il mourra. Très forte insistance. Et le lecteur de l'Ancien Testament se rend compte aussi que ce n'est pas simplement quelques directives ou actions particulières, mais qu'il y a quand même dans l'Ancien Testament une atmosphère générale que l'on retrouve dans les récits, que l'on retrouve dans les psaumes et chez les prophètes, et qui donne fortement l'impression que le mal doit être très vigoureusement combattu. Donc celui qui cherche dans la Bible une solution à la violence, il va être déçu par les deux parties de la Bible, aussi bien par le Nouveau Testament que par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament donnant nettement l'impression qu'il n'y a pas de justice sans violence, il n'y a pas de victoire du bien sur le mal sans violence, et le Nouveau Testament que face à la violence, il n'y a pas d'autre réponse que de subir et d'aimer malgré tout. Dans les deux cas, la violence apparaît vraiment collée à la réalité du monde, impossible à éradiquer, au moins avant une victoire définitive de Dieu sur le mal, une victoire qui est toujours décrite à la suite d'une intervention particulièrement violente. Alors après un tel constat, comprendrez que je vais devoir rester modeste. La Bible ne donne pas toujours des réponses aux questions que nous lui posons, que nous attendons une réponse. Mais il nous faut au moins écouter ce qu'elle nous dit, et pour celui qui a confiance en Dieu, confiance dans sa parole, n'est-ce pas ce qu'il y a de meilleur ? Écoutez ce que la Bible nous dit. La question principale à laquelle on ne peut pas se soustraire, c'est celle de l'articulation entre le discours de l'Ancien Testament et le discours du Nouveau Testament à propos de la violence. Je vais commencer par une affirmation à laquelle je pense que chacun d'entre nous va souscrire, mais il est très important de la poser parce qu'elle elle est décisive pour articuler Ancien et Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est la révélation ultime de Dieu, avec la venue du Christ et l'enseignement qu'il a confié à ses apôtres. C'est une révélation qui couronne, qui achève l'ensemble de la révélation, les directives qui nous sont données dans le Nouveau Testament doivent déterminer la façon dont nous allons assimiler ou mettre en pratique ce que nous trouvons dans l'ensemble de la Bible. Il peut être utile à ce stade de notre réflexion de repérer quelques différences notables entre la situation de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Et je résumerai ces différences sous trois têtes de chapitre: des directives différentes, une mission différente et une identité différente. « des directives différentes, des consignes différentes, nous le voyons dès le début du sermon sur la montagne, lorsque Jésus oppose, on verra si c'est vraiment qu'il l'oppose, mais en tout cas, il établit un contraste. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Et il y a deux de ces oppositions qui touchent plus spécifiquement à la violence. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et puis, l'opposition suivante, l'antithèse suivante, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Et il faut bien comprendre que ces nouvelles dispositions, ces nouvelles directives données par Jésus ne s'opposent pas à des traditions humaines, à de mauvaises interprétations des directives antérieures, mais ce sont bien les directives antérieures qui se trouvent, est-ce que c'est remplacé, est-ce que c'est approfondi par les nouvelles directives que donne Jésus au début du sermon sur la montagne. Donc, des consignes différentes pour les croyants de la Nouvelle Alliance par rapport à ceux de l'Ancienne. Ensuite, une mission différente. Et là, je me réfère au texte les plus connus, donc la fin de l'évangile selon Matthieu, chapitre 28. La mission confiée par Jésus à ses disciples, c'est de faire parmi toutes les nations des disciples, c'est de les baptiser et de leur apprendre à observer tout ce qu'il a enseigné. Cette mission qui figure à la fin de l'évangile de Matthieu, on la trouve formulée de manière différente à la fin de chacun des autres évangiles. Dans l'évangile, là, c'est dans l'évangile de Luc, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à toutes les nations. Alors dans l'évangile de Marc, il y a un problème avec la fin de Marc parce qu'il y a un problème textuel. Il y a deux fins différentes et ces fins ne figurent pas dans tous les manuscrits. Alors on n'a pas besoin absolument de cette fin de Marc pour confirmer la chose, mais c'est quand même intéressant qu'on retrouve cette mission dans les deux versions de la fin de Marc, la version longue et la version courte, et formulée de deux manières différentes. Et également dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle du pardon des péchés. Donc, la mission que Jésus a confiée à ses disciples, ça n'est pas de faire régner la justice et la paix sur la terre, ça n'est pas de mettre fin à la violence. Jésus a reçu toute autorité et tout pouvoir pour que la mission qu'il confie à ses disciples soit exécutée, et l'on peut penser que si Jésus avait donné à ses disciples une autre mission, il leur aurait donné d'autres moyens. Et enfin, une identité différente. Le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance n'est plus une nation, mais une communauté. Une communauté de croyants. Jésus annonce, Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai ma communauté ». Et l'apôtre Pierre, il est en dessous, là, oui, c'est pas Matthieu, c'est Pierre, excusez-moi. Hein, donc je vais vous donner la référence exacte. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes la lignée élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. C'est le peuple des croyants, la communauté des croyants qui est le peuple choisi par Dieu pour réaliser sa mission. Et il y a cohérence entre ces trois caractéristiques de la Nouvelle Alliance, identité différente, mission différente, directive différente. Si le chrétien reçoit comme directive de ne pas répondre à la violence, c'est parce que sa mission, justement, n'est pas de mettre fin à la violence, mais de faire des disciples. De faire des disciples de Jésus, celui qui a subi la violence. Et c'est aussi parce que son identité est celle d'une communauté, une communauté qui ne se confond pas avec une nation. Alors, est-ce à dire que la Bible n'apporte aucune réponse à la violence. Quand on lit le Nouveau Testament, on constate que l'effort principal du Nouveau Testament consiste à vaincre sa propre violence. Cela apparaît lorsque l'on considère les oppositions du Sermon sur la montagne dans leur ordre. Jésus commence par dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, celui qui lui dit imbécile. Donc Jésus décèle la violence en deçà du meurtre, dans la colère et dans les insultes. Il n'y a pas opposition, mais il y a approfondissement. Et ça correspond à ce que Jésus dit juste avant d'énoncer ses antithèses. « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Versets 17 à 19. Donc, le Nouveau Testament enseigne à son lecteur à combattre la violence à la racine et à la combattre chez lui. Et on peut remarquer que les oppositions que j'ai relevées et qui concernent davantage la violence, œil pour œil, dent pour dent, ne pas résister aux méchants, sont des consignes personnelles. Si quelqu'un veut te prendre ton manteau, te prendre, je crois que j'ai les textes, oui, te faire un procès, te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Et cela va se retrouver dans la façon dont Paul reprend les consignes de Jésus. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc lorsque Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, donc il y a un pluriel, mais c'est un pluriel adressé à chaque personne qui l'écoute. C'est chez moi que je dois voir la violence, que je dois la voir dans la colère, dans les insultes, que je dois la voir dans la convoitise. Et on progresse ensuite. On progresse ensuite, je la vois dans mes réactions à l'injustice et à l'hostilité. Paul, Romains 12, parle d'une victoire du bien sur le mal, mais cette victoire, c'est essentiellement une victoire intérieure. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est dans ta propre vie et dans tes propres réactions que tu dois vaincre le mal qui te menace et que tu sens naître en toi. Alors, cette victoire personnelle sur ma propre violence, elle a bien évidemment une dimension sociale. On la voit dans la famille, on la voit dans la communauté des croyants et on la voit plus largement dans la société. On peut même espérer que cette victoire du chrétien sur sa propre violence va avoir une certaine influence bénéfique sur la société. On en parle très souvent. C'est un phénomène bien connu que la violence entraîne la violence. Et que rompre cette chaîne, cela peut être un facteur d'apaisement. Et d'ailleurs, on voit bien que la pointe de l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne vise à ne pas être violent lorsque mon prochain est violent. On peut même considérer, je vais encore plus loin, que ce serait une mission du chrétien, non pas seulement d'être en paix, autant que ça dépend de lui, d'être en paix avec tous les hommes, mais plus encore, et là je me réfère à la béatitude de Jésus, être de ceux qui procurent la paix, qui sont des artisans de paix, les eirenopoioi. Quand on écoute cette béatitude et qu'on regarde le Nouveau Testament, on ne voit guère d'exemples de cet ordre. Peut-être l'attitude de Paul dans la tempête, je ne sais pas. Mais l'histoire de l'Église nous donne quand même d'assez nombreux exemples positifs et indéniables de chrétiens qui ont contribué à la paix. Cependant, quant au résultat de cette conduite extraordinaire du chrétien, ce Ce que Jésus demande, c'est l'extraordinaire. Que faites-vous d'extraordinaire si vous êtes simplement gentil? Quant au résultat de cette conduite, le Nouveau Testament ne nous laisse pas espérer l'éradication de la violence dans le temps présent. Aucune, alors peut-être si je me trompe, on pourra en discuter et je me rétracterai, aucune des exhortations à la non-violence dans le Nouveau Testament n'est suivie d'une telle promesse. La béatitude des faiseurs de paix, Matthieu 5, verset 9, elle est suivie de ceux qui sont persécutés pour la justice et ensuite du bonheur de ceux qui sont... est-ce que je lis ça? Voilà. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. On vous dira toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Cette béatitude, d'ailleurs, qui s'enfle à la fin de la liste, c'est la dernière et elle est largement développée. Et Jésus met en garde contre cette illusion. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il en parle à l'intérieur de la famille. Et si la division dont parle Jésus pénètre le cercle le plus étroit de la famille, qu'en sera-t-il de la société? Qu'en sera-t-il du monde? Et des relations entre nations. Donc la violence, comme le péché, est vraiment ancrée au cœur de l'être humain. Et ce n'est pas seulement la violence qui provoque et qui déchaîne la violence. On le voit bien dans le Nouveau Testament. C'est aussi la vérité et c'est aussi l'amour. Nul n'a été plus vrai. Nul n'a été plus aimant que le Christ. Et c'est sur une croix qu'il a fini. Et c'est cette même croix qu'il donne comme emblème à ses disciples. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Et c'est au verset 34 du chapitre 10 de Matthieu, et quelques versets plus loin, verset 38, on a la phrase que j'ai citée tout à l'heure, « Je ne suis pas venu apporter la paix ». Donc si l'on reprend l'image globale du chrétien dans le Nouveau Testament, comme quelqu'un qui subit la violence, cette violence subie l'est essentiellement pour ce que l'on doit appeler le prosélytisme. C'est-à-dire, bon, beaucoup discuté sur l'emploi de ce terme, mais moi je préfère employer les mots comme dans le sens qu'ils ont le plus couramment, c'est-à-dire l'affirmation de convictions religieuses et l'effort entrepris pour convaincre les autres. D'ailleurs, le prosélytisme n'est pas condamné par la loi. C'est une mauvaise forme de prosélytisme. Où, le prosélytisme, lorsqu'on a une fonction de fonctionnaire, etc. C'est parce que les chrétiens parlent de Jésus, c'est parce qu'ils disent qu'il est ressuscité, parce qu'ils reprochent à la population de Jérusalem de l'avoir mis à mort, c'est parce qu'ils invitent les autres à croire en lui, c'est à cause de cela qu'ils ont des ennuis avec la population et avec les autorités. Ils provoquent l'exaspération des responsables qui n'arrivent pas à les faire taire. Alors il y a des arrestations, des menaces, des coups, acte 5, verset 40. Il y a aussi la violence populaire. Le récit de la lapidation d'Étienne est étonnant parce que ça commence comme un jugement, légal, puisque le Sanhédrin est amené à statuer dans ce genre de situation. Mais la fin, il n'y a aucune sentence prononcée. La foule se saisit d'Étienne et le lapide. Et en plus de cela, puisque les chrétiens provoquent contre eux des réactions aussi violentes, et on les accuse d'être les responsables de la violence. Ce Ce sont eux les fauteurs de troubles. À Jérusalem, Paul est presque lynché par la foule. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emprisonne. Alors on dit il est à l'abri. Oui, mais il est quand même prisonnier et il va falloir le juger. Parce qu'on a voulu le tuer. La ville de Philippe, la foule s'amasse contre Silas et contre Paul. On les met en prison sans avoir oublié de les battre de verge avant. Et Suétone, dans sa vie des douze, ses vies des douze Césars, le livre sur Claude, dit ceci à propos des Juifs. À Rome, il chassa de la ville les Juifs qui se soulevaient sans cesse à l'instigation d'un certain Crestus. Ce certain Crestus, c'est probablement une évocation du Christ. Alors, les Juifs se soulèvent à l'instigation du Christ. C'est parce que les Juifs ne supportent pas les chrétiens et qu'ils exercent la violence contre eux que l'on accuse les chrétiens d'être responsables des troubles. Donc la violence n'est pas du tout éradiquée. C'est une illusion de penser que Jésus, en donnant ses directives, aurait donné au monde le moyen d'éradiquer la violence. Celui qui tend l'autre joue, il risque bien de recevoir une autre gifle. Alors, face à la violence qu'il subit, le chrétien a deux recours, la justice de Dieu et la justice humaine. Il me reste combien de temps ?
10 minutes,
bon.
Entre
10 et 15 minutes. Bon, ça va aller. D'abord, la justice de Dieu. Les exhortations, alors je ne sais plus si j'ai des textes, si j'en ai pas, voilà, oui. Les exhortations de Paul à ne pas se faire justice soi-même sont des exhortations qui sont adossées à la justice vindicative de Dieu, que Dieu revendique pour lui-même. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et le Christ injustement traité que Pierre donne en exemple, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 23, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Est-ce que j'ai comme autre texte ? Oui. Pierre recommande à ceux qui souffrent, en faisant le bien selon la volonté de Dieu, de s'en remettre au Créateur qui est digne de confiance. Et Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, est encore plus explicite lorsqu'il évoque cette justice divine qui rend la détresse à ceux qui vous causent de la détresse. C'est le principe même du talion. Et ce principe du talion, on le retrouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 11, verset 18. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. À dessein, j'ai choisi des textes du Nouveau Testament, on en trouverait beaucoup dans l'Ancien. Mais là, on voit bien qu'il y a une cohérence entre les deux parties de la Bible sur ce point. S'il y a de nouvelles consignes, la justice de Dieu est la même. Dieu punit le mal et Dieu punira le mal. Deuxièmement, la justice humaine. Alors, je crois qu'elle va être évoquée au cours de ce colloque. Je ne veux pas trop développer. Je voudrais juste citer quelques textes. Justice humaine. Alors, on voit bien que cette justice humaine, elle est toujours en partie défaillante. Notamment lorsque les chrétiens sont poursuivis pour des violences dont ils sont eux-mêmes les victimes. Mais c'est quand même bien à cette justice humaine que Paul fait appel. Par exemple, lorsqu'il en appelle à César pour être jugé. Acte 25, versets 9 à 12, et aussi lorsqu'il fait valoir son statut de citoyen romain pour se plaindre des coups qu'il a reçus. Acte 16, verset 37. Et c'est aussi à cette justice humaine que Paul renvoie lorsqu'il demande aux chrétiens de Rome d'être soumis aux autorités établies, servantes vengeresse de Dieu pour la colère contre celui qui fait le mal. Je sais pas si c'est le texte. Oui. Alors, c'est... Ensuite, c'est le texte de l'apôtre Pierre qui reprend à peu près le même thème. Nous arrivons là à un point... Voilà, j'ai terminé avec mes textes. Nous arrivons là à un point crucial de l'articulation entre les deux testaments. Si nous revenons aux deux antithèses du sermon sur la montagne, aux deux dernières antithèses, mais moi je vous dis, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez entendu qu'il a été dit tu aimeras ton ennemi et moi je vous dis aimez vos ennemis. On tend souvent à comprendre ces antithèses comme l'opposition de contraire. C'est-à-dire qu'on oppose on oppose vengeance et non-violence. Et peut-être même aussi, parfois, on oppose stricte justice, loi du talion, et non-violence. Mais tout le contexte, j'ai déjà amené quelques éléments de démonstration, tout le contexte nous invite à les comprendre, non pas comme opposition, mais comme accentuation. Du meurtre, Jésus va rechercher le mal jusqu'à la colère. De l'adultère, il va le chercher jusqu'à la convoitise. De l'attestation de divorce, il va jusqu'à demander de ne pas divorcer. Du parjure, il va jusqu'à demander de ne pas mentir, même lorsqu'on ne jure pas. Il ne vient à personne l'idée de penser que le meurtre ne serait plus un crime parce que Jésus dénonce la colère et l'insulte. Et comme je l'ai déjà mentionné, Jésus a introduit ces fameuses antithèses en disant « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Donc, la stricte justice du talion n'est pas abolie par les consignes de non-violence. La distinction entre prochain et ennemi n'est pas non plus abolie par l'amour de l'ennemi. D'ailleurs, comment peut-on aimer un ennemi si on ne le reconnaît pas comme ennemi ? Dans le monde où nous sommes, une réponse énergique, voire violente, reste nécessaire pour limiter la prolifération de la violence. Et c'est bien la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Ça reste bancal, bien sûr, puisque c'est accompli par des êtres humains. C'est bancal comme tout ce que font les humains, mais ça reste nécessaire. Je reviens à ma déception du début. Si notre mission était d'éradiquer la violence sur la terre, nous serions mal. Et nous ne saurions que faire. Parce que l'amour ne permet pas de l'éradiquer, c'est une illusion de le penser, et la justice non plus, et même la répression, elles sont nécessaires pour les limiter, mais elles ne permettent pas de l'éradiquer. Alors que conclure ? Par rapport à la violence, la révélation biblique, Ancien et Nouveau Testament, nous invite à réorienter notre pensée. Quel est l'axe majeur de la politique de Dieu dans le temps présent, dans ce temps entre la première venue du Christ et son retour, ce temps provisoire ? C'est la communication de la bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ, et tout le reste lui est subordonné. C'est pour cela que nous sommes appelés à vaincre notre propre violence, pour être des disciples crédibles du Christ, qui feront eux-mêmes des disciples crédibles eux aussi. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes actions, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la politique de Dieu. Thank you.